Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. D'abord, Julie est jolie. Mais surtout, elle est talentueuse, curieuse, fine mouche et si experte en cuisine qu'on se désole qu'elle n'ait pas ouvert un restaurant. Elle qui nous donne rendez-vous avec les carnets de Julie chaque samedi sur France 3 à partir de 15h jusqu'à 17h pour des balades délicieusement gourmandes dans les plus belles cartes postales de notre pays. Alors ouvrez grandes vos oreilles et vos papilles, c'est avec Julie Andrieux qu'on s'évade cet après-midi.
Europe 1.
Bonjour Julie.
Bonjour Isabelle, j'ai bien fait de venir. Jolie présentation.
Chère Julie, Épicure, philosophe qui vivait 3 siècles avant notre ère et qui s'y entendait dans la recherche du bonheur, eh bien Épicure disait « Regarde d'abord avec qui tu manges et tu bois avant de regarder ce que tu manges et tu bois. » Alors bien sûr, tout ce qui vit se nourrit, il faut manger pour vivre. Mais pour les humains, tout de même, c'est un matériau hautement symbolique, la nourriture.
C'est intéressant que vous commenciez par Épicure parce que il y a souvent un contresens avec Épicure. On parle de l'épicurisme comme quelque chose qui évoque le bon vivre, le bien manger, parfois un peu même les abus. Alors que c'est le contraire, Épicure prônait la modération en tout. Et il disait que le plaisir venait de cela.
Et aujourd'hui, et plutôt de l'harmonie que des excès.
Et de l'harmonie, absolument. Aujourd'hui, on a un peu perdu cette notion-là parce qu'on part du principe que la bonne cuisine, la gastronomie, ça, on a les dents du fond qui baignent, c'est un peu vent. Tripotant. Et souvent les gens me disent mais c'est étonnant parce que vous parlez de nourriture, vous allez goûter les meilleurs plats, vous cuisinez et pourtant vous restez relativement mince. Et je dis mais
relativement.
En quoi c'est incompatible? Et ce qui est intéressant, c'est quand on va chercher dans la culture chinoise notamment, qui est une des plus anciennes cultures au monde, on a toujours conçu les recettes de cuisine, la façon de s'alimenter sur un principe d'équilibre et d'équilibre alimentaire, partant du principe que ça ne pouvait pas être bon au goût si ça n'était pas bon pour notre santé. Et j'aime bien cette idée.
Alors, chère Julie, la symbolique de la nourriture, elle est donc culturelle, sociale, religieuse. Et je sais que depuis longtemps, d'ailleurs, vous portez le projet d'une émission qui parlerait de la cuisine au travers des religions. Mais en pleine mondialisation, donc en 2019, alors que les fast-foods sont les mêmes partout sur la planète, peut-on encore dire qu'on est ce qu'on mange ?
Ah oui, ben vous l'avez dit, on est ce qu'on mange parce que la nourriture, c'est ce que l'on ingère, c'est ce que l'on met à l'intérieur de soi, c'est ce qui nous constitue au sens le plus physiologique du terme. Et donc évidemment, on est ce que l'on mange. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a souvent un clivage social à travers la nourriture. On le sait, on essaye de se battre contre ça parce qu'on se rend compte que les classes les moins aisées sont souvent celles qui grossissent le plus, qui s'alimentent mal. Pas seulement pour une question de moyens financiers, mais aussi pour une question de culture. On n'a pas forcément de transmission. On considère que c'est pas prioritaire que de savoir faire la cuisine, que d'acheter des produits frais, que c'est pas parfois un temps perdu. Et c'est là où je trouve qu'il y a des wagons à raccrocher. Et pas seulement d'ailleurs dans les classes les plus modestes, parce que ça peut être aussi le cas dans des milieux plus aisés. C'était le cas pour moi, puisque ma maman, qui était une maman formidable, formidable en beaucoup de choses, mais pas en termes de cuisine, m'a fait manger dans la plupart du temps lors de mon enfance des plats préparés, des plats industriels.
Réchauffé au micro-ondes.
Ouais, voilà. Alors bon, la preuve, c'est que j'en suis pas encore morte. Mais cela dit, aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais préféré être élevée autrement. Mais elle m'a donné beaucoup d'autres choses. Et ça m'a peut-être permis de choisir cette voie professionnelle par réaction, finalement.
Ouais, bien
donc,
sûr.
Donc ça m'a constituée, ça m'a construite.
Alors Julie Andrieux, pendant des siècles, voire des millénaires, la cuisine s'est transmise par l'oralité et n'a pas évolué. Aujourd'hui, toutes les cuisines se mélangent et s'influencent puisque tout le monde voyage. Alors, j'aimerais bien savoir si la cuisine a évolué plus vite selon vous ces 30 dernières années que, par exemple, depuis Taïwan au XIVe siècle, ou va-t-elle au XVIIe, va-t-elle cuisiner de Louis XIV ?
Alors c'est intéressant parce que ça rejoint le projet qu'on a mis en place sur France 3 il y a quelques mois qui s'appelle Les Festins de Julie, qui a été diffusé donc à 20h30 à Prime au mois de décembre.
Le premier en décembre. Au Château de Chambord.
Au Château de Chambord, voilà, qui est un programme qui relie la cuisine et l'histoire. Et en fait, on s'est attaché à la Renaissance évidemment, puisque Chambord est un joyau de la Renaissance. C'est intéressant, oui, ça a évolué évidemment énormément. temps et ça évolue peut-être plus rapidement. Mais à l'époque, on retrouve des points de connivence avec ce que nous aimons aujourd'hui, ce que nous pratiquons aujourd'hui. Parce qu'on mangeait beaucoup de sucré salé. On mangeait assez peu gras d'ailleurs, parce que la cuisine du Moyen-Âge, on sortait du Moyen-Âge, était quasiment exempte de gras. On aimait les eaux de fleurs d'oranger, les eaux de rose. On aimait tout ce qui était exotique pour l'époque, qu'il est encore aujourd'hui d'ailleurs. Et alors, on aimait surtout une chose qui, moi, me manque un peu aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'a plu de le remettre un peu au goût du jour avec Charles Quézin qui nous a accompagnés, qui est scénographe. On aimait le spectacle à table et les repas de cour. Hein. Attention, on parle de la cuisine de cour qui n'avait rien à voir, évidemment, avec la cuisine du commun des mortels. Mais les repas de cour étaient des spectacles à part entière. Et alors, il y avait des chants, de la danse, mais surtout, il y avait, en général, des animaux qu'on reconstituait après les avoir cuits, donc des oiseaux... On leur remettait les plumes, on pouvait même les faire s'activer par des mécanismes à la Jules Verne. Enfin, c'était spectaculaire, c'était une espèce de surenchère d'une cour à l'autre, à qui ferait le plus rêver. Il y avait des centaines de plats. Voilà, on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui, donc ça, on n'a pas été à la hauteur probablement de ce que faisait François Ier, et heureusement, parce que ça aurait été un peu choquant. Ne serait-ce que, je vous donne un exemple, il y a une tradition, voulait qu'on faisait cuire en tourte, alors des pâtés, de viande, de poisson, etc. Oui. C'était la mode des tourtes parce que ça permettait de préserver la farce et d'éviter qu'elle s'oxyde. Et donc dans ces tourtes, par exemple des tourtes de gibier, on aimait beaucoup le gibier, François Ier chassait beaucoup, on pouvait mettre une farce, bien sûr, farce fine, mais à l'intérieur on mettait des oiseaux vivants. Et quand on coupait la tourte...
Enfin, il ne restait pas longtemps vivant.
Non,
hein,
si, il fallait qu'il reste vivant, justement. Et quand on coupait la tourte, et les oiseaux s'envolaient. Donc c'était assez beau, dans le fond. C'était une libération des oiseaux. Et ensuite, on mangeait la tourte. Et moi, tout ça m'a parlé, parce que c'est une dimension qu'on a un peu perdue aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on est allé chercher un scénographe qui, lui, avait cette capacité à donner ce tour de folie à nos repas.
C'est formidable, parce qu'avec vous, on ne parle pas que de cuisine. Ou plutôt, en parlant de cuisine, on parle d'histoire. Julie Andrieux, en fait, vous animez en France la seule émission de cuisine qui ne repose pas sur un concours, parce que toutes les autres déclinent en réalité le même concept. Top Chef, Master Chef, le meilleur pâtissier, y avait un dîner presque parfait. Est-ce que vos petits camarades manqueraient un peu d'imagination?
J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas le même métier, surtout, je crois. Je ne suis pas sûre que je serais capable de faire le leur. Moi, j'étais très heureuse quand j'ai vu arriver ces émissions. Moi, je suis un vieux dinosaure. Quand je suis arrivée à la télé, tout ça n'existait pas et personne n'aurait misé sur la cuisine en général. Donc, j'ai essayé de faire mon petit programme vaille que vaille. Et quand j'ai vu arriver ces mastodontes, je me suis dit, ah ben enfin, on comprend que la cuisine peut faire venir du monde à la télé, qu'elle est bankable, comme on dit. Et donc, ça allait dans le sens de mon discours. Mais c'est vrai que d'un côté, on a une cuisine technicienne, on a une cuisine de performance, mais qui est une réalité de la cuisine française. Hein. Elle est éminemment technicienne et elle repose, voilà, quand on parle d'une brigade, c'est pas un hasard, voilà, c'est quand même assez militaire, très exigeant. Et puis moi, je m'attache plus à la cuisine des non-professionnels, la cuisine des amateurs, mais l'amateur, c'est celui qui aime, c'est beau. La cuisine ménagère, et c'est une cuisine qui raconte des choses intimes. Donc voilà, c'est une approche qui est, je pense, qui sont deux approches qui sont complémentaires.
Alors c'est drôle parce que vous venez nous confier que en fait vous avez dû batailler avec les directeurs de programmes des chaînes de télé pendant quelques années avant de pouvoir justement proposer des émissions culinaires. En Angleterre et aux États-Unis, ça fait 30 ans que les programmes culinaires cartonnent, bien que les anglo-saxons ne soient pas les rois des fourneaux théoriquement. Mmh. Vous l'expliquez comment cette réticence française face à quelque chose qui depuis est devenu une mode
c'est
à
vrai,
la télé.
C'est vrai, quand moi j'ai commencé j'avais quoi, 22-23 ans et j'avais fait plusieurs séjours aux États-Unis et à chaque fois que j'allais aux États-Unis, je regardais la télé des programmes de cuisine dans tous les sens, aussi bien d'ailleurs des cuisines latino que des cuisines italiennes, il y avait de tout, asiatique bien sûr, et je me disais mais qu'est-ce qu'on fait nous en fait? Et je crois qu'on était un peu, peut-être un peu sur notre quant à soi et on se disait, bah on est français, donc à partir du moment où on est français, NE accent, ça veut dire qu'on sait faire la cuisine,
voilà.
C'est un postulat. Et puis on s'est rendu compte, en tout cas moi j'en ai été la preuve, que bien qu'étant née française, je ne savais pas du tout faire la cuisine parce qu'il y avait eu rupture de transmission, comme je l'ai dit, comme une maman qui ne savait pas faire la cuisine, qui s'en foutait d'ailleurs complètement, qui faisait plein d'autres choses, et que bah, je me retrouvais comme trois ronds de flanc à devoir apprendre le béaba de la cuisine. Et c'est peut-être à ce moment-là, quand on s'est rendu compte qu'il fallait reprendre les bases et que, en plus, ces bases étaient passionnantes, intéressantes, la terre entière, tous les cuisiniers du monde viennent se sourcer vraiment dans les livres français, viennent apprendre au contact des chefs français, et Escoffier le premier. Mais au-delà de ça, maintenant, il faut qu'elle se renouvelle un petit peu. Donc, c'est pour ça que je crois qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à imaginer autour de la cuisine, et c'est là où tout a changé. Je crois que ça a été pendant longtemps quand même une tâche ménagère rébarbative, c'était perçu comme ça, ou un métier pour d'autres, souvent pour des hommes. Et en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait être un loisir, une culture aussi, un moyen de partager. Donc c'est la société qui a évolué, c'est pas la cuisine finalement.
On fait une très courte pause, on retrouve tout de suite Julie Andrieux.
Elle a choisi la cuisine, mais elle aurait pu faire carrière dans d'autres disciplines, l'invitée d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, et cet après-midi, la nourriture et les saveurs sont au cœur de cette conversation qui se poursuit jusqu'à 16h.
C'est l'histoire d'une jeune femme qui serait virtuose en tout, mais qui a choisi, comme terre de prédilection, la cuisine pour sa notion de partage et le lien qu'elle tisse entre les gens. Je reçois Julie Andrieux. Alors, chère Julie, j'imagine qu'il y a peu de cuisiniers qui ont commencé leur carrière comme dégustateurs dans l'équipe d'un critique gastronomique. Et ben vous aussi, comment, pourquoi ?
C'est vrai. Mais parce que je ne me destinais pas à la cuisine au départ. Moi, j'avais fait un bac littéraire, j'aimais écrire et j'aimais bien manger. Et je me suis dit, finalement, si on lit les deux, pourquoi pas la critique gastronomique ? Je trouvais ça assez fascinant, assez mystérieux, ça l'était. Et donc j'ai fait 10 ans de critique gastronomique grâce à quelqu'un qui a été mon mentor, mon parrain, Claude Lebey, qui était un éminent critique et éditeur, qui m'a fait confiance, bien que je n'avais pas de culture dans ce domaine. Mais il s'est
mais
dit
au nom de quoi vous a-t-il fait confiance?
Il m'a fait confiance.
Puisque vous étiez très jeune.
Oui, parce qu'il a tout de suite senti que j'étais totalement passionnée par la cuisine, parce qu'à l'époque déjà je cuisinais frénétiquement du matin au soir, je faisais toutes sortes de plats, je testais les livres des grands chefs, mais c'était totalement empirique parce que j'avais pas reçu de formation académique. Mais justement, n'ayant pas ces bases-là, ce socle-là, j'allais peut-être encore plus loin. J'étais confrontée à des échecs, donc je pouvais les anticiper chez les autres. Et simultanément, il m'a proposé de devenir critique gastronomique et d'écrire un livre de cuisine. Et il m'a donné un conseil que j'ai gardé jusqu'à maintenant. Il m'a dit, je vous demande une chose, c'est de ne pas utiliser la terminologie, la rhétorique des chefs.
Des chefs, voilà. Bien sûr.
Et ça m'arrangeait parce que je ne la connaissais pas. Puis en plus, moi, j'étais dans la position justement de la cuisinière passionnée mais néophyte, donc je pouvais avoir ce regard-là. Et j'ai trouvé une troisième voie en essayant de vulgariser cette cuisine.
Mais alors, je reste juste un petit moment sur le métier de critique gastronomique, parce qu'il n'y a pas d'école de critique gastronomique, on ne forme pas professionnellement les papilles. Pourtant, malgré la subjectivité, il y a toujours un goût commun qui se dessine autour de ce qui est censé être le meilleur par rapport à ce qui est censé être bon.
C'est très difficile en fait, c'est très subjectif et très ingrat, on peut le dire. Maintenant, je crois que c'est à nous d'avoir le recul suffisant pour se dire que d'abord qu'on ne juge pas tous les restaurants avec la même grille de lecture. Si c'est un bistrot, on va juger en fonction de l'offre, de la proposition. Si c'est un bistrot qui propose une nourriture du quotidien traditionnel, et puis si c'est un restaurant gastronomique, il faut essayer de comprendre ce que les gens vont aller chercher, ce que le client va aller chercher, ce qu'il attend d'un endroit. Ça va dépendre aussi du prix, bien sûr, que l'on va payer. Mais il y a plein de choses, et puis il faut avoir un regard sur tout ce qui se passe en dehors de l'assiette, tous les petits détails. Faire la synthèse de tout ça, et avant tout se dire que ce qu'on a vécu, c'est une expérience, mais que finalement, il peut y en avoir d'autres qui soient différentes. Donc, idéalement, revenir. Donc, c'est un métier infernal. Et vous basez beaucoup de temps à manger seul. En fait, c'est ce dont je me suis rendu compte, parce que déjà, on n'est pas très bien payé. Mais évidemment, le deuxième repas n'est pas du tout inclus. Donc, vous allez dans tout Paris. En l'occurrence, moi, c'était surtout Paris, manger seul dans des endroits qui ne sont pas toujours bons. Mais c'était très formateur.
Vous nous avez dit tout à l'heure que votre maman, la comédienne Nicole Courcel, n'avait en fait jamais cuisiné. Donc vous avez dû construire votre culture culinaire ex nihilo. C'est vraiment par amour d'un homme que vous êtes penchée sur des fourneaux.
Oui. Alors je pense que c'est par extension, par amour quand même de la bonne chair et de la bonne nourriture, mais ça s'est déclenché grâce aux années que j'ai passées avec cet homme qui, lui, contrairement à ma maman et à mon entourage dans mon enfance, aimait s'attabler dans des bistrots. C'était plutôt la cuisine traditionnelle, c'était une passion que j'ai gardée. Goûter des terrines, des plats mijotés, boire du vin, et alors tout ça m'était totalement étranger. Et j'ai trouvé ça formidable, passionnant. Enfin, c'était une terre incognita pour moi. C'est assez fou parce que j'avais quand même 20 ans, donc je n'étais pas non plus jeunette.
Donc ça veut dire que cet homme, ce premier amour, a officié comme Pygmalion.
Oui, c'est ça. Ah bah, ça, c'est clairement. Pas seulement à ce niveau-là, mais en tout cas, pour ce qui est de la cuisine, c'est évident, sans le savoir. Et moi aussi, d'ailleurs, je ne savais pas du tout que je prenais une voie professionnelle parce que dans mon esprit, soit on était chef, soit je faisais souvent des terrines, c'est pour ça que je vous dis ça, soit on était charcutier traiteur. Mais je ne voyais pas ce que je pouvais en faire de cette passion pour la cuisine. Et c'est cet éditeur qui m'a dit, mais écrivez un livre. Et puis, je me suis dit, mais après tout, s'il y a une chose que je maîtrise un peu, c'est quand même la communication, la télévision, puisque j'avais vécu dans les théâtres, dans les coulisses, etc. Et je me suis dit, essayons de faire une émission de télé. C'est venu comme ça.
Qui sont les grands chefs qui se sont penchés au-dessus de votre épaule pour regarder ce que vous m'y teniez? Est-ce que vous avez fait des stages, par exemple, chez des chefs étoilés?
Oui, j'ai eu la chance qu'Alain Passard, à l'Arpège, m'ouvre ses portes grâce à l'intermédiaire de Guillaume Gallienne, d'ailleurs, qui est un ami d'enfance.
Oui.
Son papa était un grand gastronome et il m'a permis de rentrer dans sa cuisine alors que je n'avais aucun curriculum vitae.
Oui, parce que vous n'avez pas fait les grandes écoles, Ferrandi, l'école de Ducasse, l'Institut Paul Bocuse, l'école Cordon Bleu, par exemple, à Paris.
Non, c'est vrai. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire des courts stages à l'école de Ducasse et ensuite, Alain Ducasse, qui est devenu un ami avec sa femme Gwenaëlle, m'a permis de venir en observatrice dans pas mal de ses cuisines. Donc ça, c'était très utile. Et assez vite aussi, je me suis mise à faire, notamment sur France 3, justement, une émission où je recevais des chefs au quotidien qui me délivraient une recette. Et ça, ça a été très formateur aussi parce que, du coup, j'ai appris énormément. Ils m'ont donné leur tour de main, je les ai observés.
Et votre cuisine chez vous, dans votre petit appartement, ressemblait de plus en plus à un laboratoire, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Alors oui, c'est un laboratoire, je ne sais pas si c'est le terme, parce que justement, j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas avoir trop de matériel compliqué. Moi, j'aimais bien cuisiner avec le strict minimum, du bon matériel, mais un bon couteau, une planche, un mixeur, et ça me suffisait. Et surtout des bonnes gamelles, comme aurait dit ma grand-mère, mais des cocottes en fonte, ça j'adore. Mais au-delà de ça, je n'ai pas besoin de choses. D'abord, parce que je pense que le public auquel je m'adresse est à peu près comme moi, et que si je commence à leur dire attendez, faut avoir acheté ça, la machine à pain, le truc, le machin,
il vaut mieux de bons produits que du bon matériel.
Voilà.
C'est ça?
Exactement.
On fait une pause, on retrouve tout de suite Julie Andrieux.
15h20, on retrouve Isabelle Morizet et son invité pour la suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Elle cuisine, elle produit, elle publie. Elle est hyper active, Julie Andrieux, et tant mieux pour nous. On la retrouve chaque samedi après-midi sur France 3, de 15 à 17h pour ses fameux carnets. Et cet après-midi, eh bien, Julie Andrieux nous accompagne. En fait, Julie, avec le physique hitchcockien qui est le vôtre, vous qui excellez dans l'art de la parole, vous auriez pu présenter le 20h, animer des émissions de débat, des émissions littéraires, ou sur l'art en général. Vous avez choisi la cuisine, mais vous auriez pu, en réalité, faire carrière dans bien d'autres disciplines à la télé. Je suis sûre qu'on vous l'a proposé. Et souvent même, non?
Oui, c'est vrai, on m'a proposé beaucoup de choses.
Et pourquoi avez-vous refusé?
Mais parce que c'est pas mon métier. Parce que mon métier, c'est de faire la cuisine, et en l'occurrence à la télévision, et comme vous l'aviez dit aussi à travers des livres ou à une époque sur Europe 1. Mais c'est quand même la colonne vertébrale, c'est de traiter de l'alimentation. C'est pas seulement la cuisine, effectivement, c'est d'essayer de dire des choses à travers notre nourriture. Et puis je suis bien dans ce que je fais, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons de traiter mon sujet. Et la preuve, les festins de Julie, cuisine et histoire, donc je ne suis pas frustrée du tout.
Et on parlera tout à l'heure de vos projets, mais en attendant, votre maman Nicole Courcelles fut une comédienne très célèbre, dont certains films comme Rendez-vous de juillet ou Les dimanches de Ville d'Avray font vraiment partie du patrimoine du 7e art. Une chose est sûre, pourtant, jamais, jamais vous n'avez été tentée par une carrière d'actrice.
Non, on m'a proposé aussi de tourner, mais non, alors pas du tout. Je pense que les deux métiers que je n'ai pas envie de faire, ce serait restaurateur et actrice, parce que ce sont peut-être ceux que je connais le mieux, et même si j'ai beaucoup d'admiration pour les acteurs et pour les chefs. Non, parce que...
Jamais restaurateur?
Parce que c'est le contraire de ce que je fais, finalement. Moi, je le perçois comme... c'est un très beau métier, très généreux, mais on est quand même un peu entre quatre murs. Enfin, sauf si on devient Alain Ducasse, mais ça, j'en ai pas les moyens. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est être le petit oiseau au bout de la branche, ne dépendre de personne, que des personnes ne dépendent de moi, pouvoir voyager, pouvoir rencontrer, pouvoir échanger. Mais je crois que je suis pas faite pour travailler ni dans une cuisine, ni dans un bureau, en fait.
De quel destin rêvait pour vous votre mère ?
Quand je lui ai dit que je voulais faire de la photo et que je voulais être reporter, elle était très très heureuse. Elle me voit, elle avait envie que je sois autonome, affranchie. Maman, elle avait travaillé dès l'âge de 16 ans, ce qui dans les années 50, 40 même n'était pas
anodin.
N'était pas courant. Et c'était une femme, voilà, très autonome et elle aurait rêvé que je fasse ce métier de journaliste, que je puisse aller au front. Et j'en ai été un peu dissuadée par un homme avec qui j'ai vécu, qui connaissait bien ce métier, qui m'a dit « mais c'est fini, quoi. Moi, je rêvais d'être Cartier-Bresson, Robert Capa. » Elle me dit « mais il n'y a pas de marché pour ça. » Alors, peut-être qu'à chez Europe 1, on va me dire le contraire. Mais c'est vrai que ça aurait été une vie probablement passionnante, noble, mais très difficile. Et du coup, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis partie voyager quand même, et notamment à travers la cuisine, en créant des rencontres.
Mais partie voyager, et de façon, effectivement, vous êtes carrément partie à l'autre bout du monde. Parce que, franchement, vous étiez une jeune fille imprévisible, culottée, très déterminée. Une fois votre bac en poche, vous avez annoncé à tout le monde que vous partiez pour un road trip en Asie, seule.
Ouais.
Et vous l'avez fait.
Ouais, j'avais 17 ans. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de mail, etc. Mais bon, à l'époque, ça nous paraissait normal. Et je suis partie, oui, 3-4 mois entre Népal, Katmandou. J'ai traversé l'Inde en train et ensuite le Sri Lanka.
Elle n'était pas épouvantée, votre maman, lorsque vous lui avez annoncé ça? Parce que reporter, d'accord, elle a applaudi des deux mains.
Mais je partais pour faire des photos à l'époque, hein,
certes,
c'était mon idée.
Mais sa fille de 17 ans qui partait à l'autre bout de la planète, ainsi, et ça,
c'était ma crise d'ado. Écoutez, si elle était certainement très flippée, et je lui serais éternellement reconnaissante d'avoir eu le courage, la générosité de me laisser partir, parce qu'elle a compris que c'était essentiel pour moi. J'étais née dans mon giron, bien protégée, bien bourgeois, et je crois que j'avais besoin de ça, de me frotter à l'altérité, à autre chose, à la différence. Et Dieu sait que là, j'étais sur une autre planète. J'ai débarqué pour la première fois en Inde à 3h du matin à Bénarès. Je suis partie tout de suite dans la ville pour aller voir ce qui se passait sur ces escaliers où on brûle les corps. Enfin, c'était vraiment une autre dimension spatio-temporelle. Mais c'est ce dont j'avais besoin. Et ça a été un voyage évidemment fondateur. Moi, j'ai toujours eu le goût de la solitude, donc ça ne me faisait pas peur du tout. Au contraire, je me disais, mais même avec ma meilleure amie, je ne serais pas partie, parce que c'est sûr qu'on serait revenus en étant les meilleurs ennemis. Et là, j'avais mes boîtiers, comme on disait, mes appareils photo. Et donc, c'était une sorte de partenaire. Et je partais chercher des images.
Et vous ne partiez pas également pour forcer l'admiration, d'une certaine manière, de celui qui est votre père et que vous n'avez que très tardivement, en fait, connu.
Non, je crois pas. Non. Alors, c'était pas ma préoccupation. Je partage encore aujourd'hui des moments extrêmement doux, chaleureux et profonds avec mon papa. Mais je partais pour me prouver à moi-même. Mais effectivement, je me transpose aujourd'hui. J'ai une petite fille qui n'a pas 17 ans, mais qui va les avoir. Et je sais pas si j'aurais eu le courage de lui dire ok, vas-y, sans connaître le pays, seule dans les trains 3e classe en Inde. Mais en même temps, elle a senti que j'étais sûre de moi, et j'étais sûre de moi parce qu'elle m'avait donné beaucoup d'amour aussi, et cette confiance là je la lui dois. Donc finalement, la boucle est bouclée.
Europe 1.
Alors Julie Andrier, on va faire une très courte pause, c'est promis, et puis on va vous retrouver justement en Inde, en vraie baroudeuse, sac à dos, crapahutant avec un appareil photo à la main, à une époque où vous n'imaginiez pas une seconde devenir une pro des fourneaux. A tout de suite.
Au Palais des Saveurs, cet après-midi avec Isabelle Morizet, 15h27. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alain Ducasse dit qu'elle cuisine comme l'oiseau chante. C'est fluide. Je reçois Julie Andrieux, dont l'émission Les Carnets de Julie nous régale chaque samedi après-midi sur France 3 de 15 à 17h. Et on se balade ensemble cet après-midi. Chère Julie, alors, on l'a dit à l'instant, vous n'aviez pas 18 ans lorsque vous êtes partie sac à dos, seule, vivre l'une des aventures certainement les plus fondatrices de votre histoire, direction le Népal, l'Inde et le Sri Lanka. C'était un choix aussi magique que dangereux, surtout tout de même pour une très jeune fille blonde, donc de 17 ans, 1m78, donc repérable de loin et seule. J'aimerais savoir pourquoi ce choix de l'Inde, ce pays des extrêmes.
Alors, pour revenir un peu en arrière, je ne suis pas sûre que ce soit si dangereux que ça. Je pense que c'était peut-être plus dangereux à 17 ans de rester à Paris, de faire des sorties, des boîtes, de la drogue, de voir tout ce qu'on peut croiser à 17 ans. Moi, ça ne m'intéressait pas.
Ça peut arriver en Inde aussi.
Ouais, c'est vrai, mais ça m'intéressait intéressé ni à Paris ni en Inde. Non, mais je veux dire par là que le danger, il est partout et il est surtout dans votre comportement, à travers votre comportement. Moi, j'étais... Je crois que les gens avaient envie de venir à moi. Je n'étais pas non plus complètement fermée, mais rien ne prêtait à confusion. Je donnais l'impression de quelqu'un qui savait où il allait. J'allais vers les gens, je rentrais, je poussais des portes. Mais j'avais un instinct, je crois, une certaine forme de discernement, peut-être de bon ouais. sens, qui me permettait de faire le choix entre telle ou telle personne. Après, voilà, c'est arrivé.
Alors, j'imagine que vous êtes partie avec un petit pécule, 1000 recommandations, des médicaments dans votre sac à dos. Et puis l'appareil photo. Mais vous dormiez où ?
Oh ben je dormais dans des hôtels. Alors merci au guide du routard. Alors là, je ne remercierai jamais assez le guide du routard. Mais voilà, j'avais pas beaucoup d'argent. Forcément, à 17 ans, on n'a pas beaucoup d'argent. Ma maman m'avait dit bah ok, d'accord, tu pars, mais tu finances quoi. Évidemment, je vais pas te financer ton voyage. Donc, mais ça faisait partie aussi du jeu et de l'aventure. Donc, des petits hôtels, des guest house. À l'époque, ça coûtait pas grand chose. Et voilà, le train.
Alors, les moments les plus fascinants et les plus inattendus de ce périple furent lesquels ? Et dans quelle région ?
Je vous ai parlé de Bénarès tout à l'heure, qui est une ville qui m'a énormément marquée. J'y suis retournée, je ne sais pas, presque une dizaine de fois depuis, qui est donc une des villes saintes, si ce n'est la ville sainte au bord du Gange, dans le nord de l'Inde. Et c'est un endroit qui m'a beaucoup marquée et où je me sens peut-être plus chez moi que nulle part ailleurs, curieusement, alors que c'est...
Tiens donc.
Ouais, c'est une ville qui peut agresser beaucoup parce que c'est bruyant, c'est sale. Mais tout ça est tellement intense. Moi, je ne suis pas croyante. Maintenant, ça n'empêche pas d'être spirituelle et de s'intéresser à toutes les formes de spiritualité. Et j'ai trouvé que c'était le plus ultime des voyages, finalement. Et il y a quelque chose de très doux, finalement. Et une chose que nous ne pouvons pas imaginer, c'est-à-dire l'absence de la peur de la mort. Ce qui libère beaucoup et qui pèse quand même beaucoup sur nos sociétés. Et parce qu'on, évidemment, on a été tous élevés dans des sociétés qui sont très individualistes. Et heureusement, très bien, je pense donc que je suis. Et donc, on se remet en question, mais on est très central. Et là-bas, c'est tout le contraire. C'est la communauté qui compte. L'individu n'a aucun prix, finalement.
Julie Andrieux, est-ce qu'à l'époque, justement, de ce voyage, vous étiez déjà curieuse des traditions culinaires et de la manière dont la société indienne s'organise autour des repas ?
Alors curieusement, pas tellement. À l'époque, je partais vraiment pour la photo, pour les images, pour les rencontres, pour l'aventure. C'est venu après. Non, c'est plutôt venu avec la terrine de foie de volaille.
Il paraît que vous adorez manger avec les doigts, sans couvert, en picorant comme ça dans les plats posés au centre de la table, comme on fait en Inde ou dans les pays orientaux.
Oui,
les mets ont une autre saveur lorsqu'on les déguste ainsi.
Oui, c'est vrai. Alors que ce soit avec les baguettes ou avec les doigts, ça peut être extrêmement délicat et sophistiqué, contrairement à ce qu'on pense. Oui. Et même au Maroc, où j'ai passé pas mal de temps, et quand on mange le couscous avec les mains, ce qui peut paraître un peu quand même anachronique, parce qu'il y a de la sauce.
On met des graines partout.
Ouais, ben non, parce que c'est un art et que voilà, les femmes qui font ça, notamment, arrivent à façonner une boulette très joliment dans leurs doigts, à la faire glisser dans la gorge. C'est très sensuel et c'est pas choquant. En tout cas, voilà, quand on a l'art de cela. Mais c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans cette approche de la cuisine à travers le voyage, c'est une école de la relativité finalement.
Bien sûr.
Des goûts et des mœurs et des façons de se tenir à table. On parlait tout à l'heure de la Renaissance, c'est la naissance du savoir-vivre et ça aussi c'est intéressant parce que ça fait partie intimement de l'art de la table. Ce repas à la française qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il inclut cet art de vivre, ce savoir-vivre.
Alors l'art de la table en voyageant, par exemple au Japon, tous les gestes autour du thé et de la nourriture sont codifiés comme si la nourriture avait finalement moins d'importance que la cérémonie elle-même. Donc, ça dit beaucoup du peuple japonais, ça aussi.
Oui, tout est codifié au Japon, déjà. C'est peut-être un peu le problème. Moi, j'adore le Japon, j'y suis allée souvent. Mais c'est vrai que c'est une société qui est à la fois peut-être plus solide, mais plus rigide que la nôtre, beaucoup moins apte à l'improvisation, mais fascinée par notre côté très volubile, très extraverti. Mais en même temps, effectivement, tout est, comme vous dites, cloisonné, tout est symbolique. Et c'est intéressant parce que c'est encore une autre dimension de la nourriture, cette symbolique.
Est-ce qu'il existe un goût commun entre les papilles, par exemple, d'un Libanais, d'un Allemand, d'un Camerounais et d'un Français, je pourrais rajouter d'un Turc et d'un Japonais? Est-ce que le goût ne naît pas spontanément? Il est toujours affilié à la tradition?
Oui, il
est conditionné.
Il est conditionné, c'est sûr. J'ai même appris que, par exemple, les bébés indiens, on revient à l'Inde, naissaient avec un goût prononcé pour les épices, parce qu'ils avaient été nourris par la mère, dans le ventre de la mère au stade fœtal. Donc c'est, voilà, il y a un conditionnement prénatal. Et puis après, il y a un conditionnement social, bien sûr, et gustatif. Non, je crois que c'est très, très relatif et différent. Pour preuve, une petite anecdote, alors que je tournais Fourchette et Sac à dos, qui était donc un programme qui m'amenait à voyager dans le monde entier, et j'étais sur les rives du Mékong avec des pêcheurs, et on avait pêché un poisson, je ne sais plus lequel, je ne suis pas sûre de l'avoir identifié d'ailleurs. Et donc, on s'est dit, on a partagé la pêche, on a pris chacun un poisson, c'était le même, et on s'est dit, tiens, on va s'amuser, on va le préparer chacun à notre façon.
Oui.
Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé les filets, j'ai fait ma recette.
À la française.
À la française. Enfin, en tout cas.
Classique.
Voilà, instinctivement. Et le pêcheur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui aussi levé les filets, sauf qu'il n'a pas gardé les filets, ça ne l'intéressait pas. Il a cuisiné les tripes, la tête et les tripes. Et il m'a dit, mais moi, si je veux vous faire plaisir...
Peut-être,
et l'arête, sans doute frites. Et il m'a dit, mais moi, si je veux vous faire plaisir, vous êtes un hôte de choix, je vous donne ce qui, pour moi, est le plus précieux du poisson, c'est-à-dire le réservoir de saveur, ce qui est le plus puissant en goût.
Ouais.
C'est l'intérieur et la tête du poisson, ce que l'on jette, nous. Et donc ça, c'était formidable, parce que tout est dit, finalement, de la relativité des goûts et des cultures.
On met le foie à l'intérieur d'une poularde qu'on veut faire rôtir pour qu'elle ait sa saveur. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils considèrent que la substantifique moelle du goût se trouve là.
Voilà, dans ce que nous jetons.
On fait une pause, on retrouve tout de suite Julie Andrieux.
Fille de comédienne, elle préfère les plateaux télé aux plateaux de cinéma. Julie Andrieux se raconte au micro d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h sur Europe 1.
Bon, c'est certain, si Jacques Demy tournait aujourd'hui Peau d'âne, c'est Julie Andrieux qu'il choisirait. Julie Andrieux qui ferait merveille, vous savez, dans la scène de préparation du cake d'amour. Julie est cet après-midi mon invitée. Alors, chère Julie Andrieux, partout dans les médias, pour, j'imagine, vraiment nous rappeler le bon fonctionnement cardiovasculaire qui doit être le nôtre, on nous parle de régime, et toujours de régime. Or, chaque samedi après-midi sur France 3, dans votre émission Les Carnets de Julie, je le rappelle, de 15 à 17h, c'est une cuisine rurale, c'est la cuisine de nos terroirs que vous mettez à l'honneur. Et nous, très bêtement, les citadins, nous, on imagine souvent que la cuisine du terroir, si elle est très goûteuse, est forcément riche, lourde, et grâce, c'est une erreur.
Écoutez, mon expérience me prouve le contraire, mais il faut situer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que si la cuisine paysanne, moi j'aime bien le mot paysan, parce que finalement les agriculteurs que je croise revendiquent ce mot de paysan.
Je suis une fille de paysan.
Ah bah vous
Alors
savez
je
de quoi
revendique
je parle.
Aussi.
Voilà, c'est l'homme du pays, l'homme qui appartient au pays, défend son pays et travaille sa terre. Et donc cette cuisine paysanne, d'abord elle servait à nourrir évidemment les hommes et les femmes, mais surtout elle, c'était un carburant. Il fallait quand même, on allait au champ, on était évidemment, on avait des activités, et encore pour beaucoup aujourd'hui encore, très physiques. Donc il fallait qu'elles soient quand même roboratives. Ça avait un sens. Hein. C'était pas juste un excès de gras. Et puis souvent c'était des graisses qui n'étaient pas des graisses saturées. Et puis on se rend compte que finalement, très naturellement, presque empiriquement, même complètement empiriquement, ces cuisinières, c'était souvent des femmes, faisaient une cuisine particulièrement équilibrée. Alors, pourquoi, comment? On n'avait pas encore la connaissance des lipides, des glucides, des 55%, blablabla, la pyramide alimentaire. Mais on le savait parce qu'une fois de plus, notre corps était notre premier et souvent notre seul outil. Ce qui est le cas encore dans beaucoup de pays à l'étranger, de sociétés traditionnelles. Et donc, peut-être qu'au fil des années, des siècles et des millénaires, on avait affiné ses goûts et ses plats jusqu'à se rendre compte de ce qui était bon pour notre corps.
Concrètement, c'est bien fait. Au travers de quel type de plat et de quel type de cuisson? Peut-être d'ailleurs.
Ce sont souvent des cuisines mijotées, des cuissons lentes, donc les produits ne sont pas agressés, ça ne nécessite pas forcément beaucoup de gras puisque on est dans une espèce de bouillon naturel finalement, notamment grâce à la présence des légumes. Et puis c'est une cuisine d'économie, de bon sens, où on ne jette rien. Enfin moi c'est quelque chose que je fais maintenant très spontanément. Quand je fais cuire un poulet rôti, je ne jette jamais la carcasse. Je remets la carcasse dans ma casserole, je couvre d'eau, je fais mon bouillon, ça va durer une petite heure, que je mets au congélateur et je me resserre de mon bouillon derrière pour autre chose. Donc dans mon gratin de pommes de terre, je coupe mes pommes de terre très finement, je vais mettre un bouillon, je ne vais pas forcément mettre de la crème, évidemment que j'adore le gratin dauphinois, mais il est presque aussi bon si je remplace la crème par un bon bouillon de poule.
J'essaierai. Alors vous dites que les soupes sont une panacée diététique et écologique, mais Julie André, il faut du temps pour préparer une soupe. Il faut éplucher tous les légumes. Et puis, il faut pas partir au travail en laissant une casserole mijoter sur le feu, même à chaleur très très douce.
Oui, mais alors, je vais vous dire, je fais pas partie des gens qui vous disent « Non, non, la cuisine, faut pas de temps. » Non, non, c'est pas vrai. La cuisine, la bonne cuisine, il faut du temps. Non, mais c'est vrai, arrêtons de dire des bêtises. Il faut du temps. Et en même temps, est-ce que c'est pas bien de le prendre ce temps pour nous ? Parce que moi, le temps que je passe en cuisine, il est mis à profit à plein de niveaux. Pas seulement pour remplir mes gamelles, mais parce que aujourd'hui, je cuisine beaucoup avec mes enfants. J'ai pas cherché à les endoctriner, mais ils viennent,
ça
ils sont tellement
intéresse.
Contents. Voilà, on partage des choses. Et puis parfois, je peux regarder la télévision, je peux écouter la radio, je vous écoute aussi. Et puis voilà, c'est un moment très plein. Et même si je ne fais que cuisiner, c'est déjà formidable. Et donc, c'est pas un temps perdu. Alors, j'ai la chance de ne pas aller, de ne pas avoir des horaires fixes. Donc, je m'arrange comme je peux. Mais il y a des trucs malgré tout. Et c'est vrai que plus j'avance en âge, plus je fais une cuisine simple. Je m'en rends compte parce que plus j'ai envie de cuisiner et de ne pas acheter des produits transformés. Mais en même temps, j'ai pas envie non plus d'y passer la journée, de me prendre la tête. Donc, je trouve des recettes très simples. Et notamment, je vais acheter de beaux légumes. Je vais simplement les laver, quasiment pas les peler, les couper en quatre, les mettre sur une plaque qui va au four, chauffer bien mon four et les mettre 45 minutes comme ça, ils vont cuire dans leur propre vapeur, ils vont avoir un goût de presque de viande rôtie parce qu'ils seront rôtis et dessus je peux jeter une épaule d'agneau ou un poulet rôti et c'est tout, mais voilà.
Alors la cuisine rurale, elle se transmet par l'oralité et l'observation de génération en génération, mais quand vous sillonnez nos campagnes pour tourner les carnets de Julie, est-ce que vous voyez réellement autant de jeunes que de gens âgés pour vous délivrer les secrets, par exemple, d'une bonne potée, sincèrement ?
Non, il n'y a pas tant de jeunes que ça, mais c'est aussi parce que c'est notre angle, je dirais, de traitement, c'est notre concept, comme on dit aujourd'hui, qui veut qu'on va plutôt vers des gens âgés. Et puis parce que notre idée, c'est de faire une émission un peu conservatoire et d'essayer de garder ces recettes qui sont un peu susceptibles de se perdre, qui sont les recettes des anciens, parce que aujourd'hui, les femmes, les mères travaillent et donc elles ont moins le temps de faire toutes ces recettes-là.
Hors tournage, Julie, vous êtes végétarienne ou pas du tout ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Je suis pas une grande carnivore. C'est pas mon plaisir ultime de manger une côte de bœuf, mais en revanche, je suis capable, je l'ai fait ce matin, tiens, d'aller acheter une très bonne viande maturée, que je vais payer un peu plus cher, mais j'en mangerai moins et j'en mange moins souvent, mais je préfère manger une très bonne viande. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens évoluent un peu dans ce sens-là. Et alors, quand on me dit mais bien manger, ça coûte cher. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 50 ou 60 ans, on a alloué 50% du budget des ménages à l'alimentation. Aujourd'hui, je crois que c'est même pas 10%.
Ouais.
Donc, à nous de voir aussi où sont nos priorités.
Mais bien enfin, se nourrir, c'est aussi être bien portant.
Voilà.
Alors, de tous ces plats de terroir à la découverte desquels vous partez pour France 3 avec vos carnets, chère Julie, réellement, lequel avez-vous intégré de façon régulière à vos recettes favorites ? Parce qu'il serait facile, pratique, goûteux, et comme ça, chez vous, pour votre famille ou vos amis, vous aimez le concocter ?
Beaucoup.
Il y en a un en particulier ?
Beaucoup.
Lequel vous vient à l'esprit en premier ?
En premier, non, je dirais que c'est chronologique. Hier, j'ai fait une galette charentaise, donc Charente, c'est la région de mon papa, que j'avais découverte donc grâce à une agricultrice qui produit ses propres céréales, fait ses propres farines, ses pâtes. Ils sont en bio depuis les années 60, donc c'est vraiment une terre bio pour le coup. Et elle m'a offert de la farine de lentilles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là ? Parce qu'en plus, moi, je ne suis pas végane. Enfin, j'aime bien, ça m'amuse, mais comme ça pourrait m'amuser d'aller chercher aussi à cuisiner des recettes d'un autre pays. Et là, elle m'a proposé de faire une galette charentaise, qui est une sorte de gros sablé, avec cette farine de lentilles. C'était hyper bon. J'ai trouvé ça grisant parce que je ne suis pas allergique au gluten. Mais c'est intéressant parce qu'il suffit juste de changer de produit.
Mais alors, ça se trouve facilement la farine de lentilles ? Si je veux en acheter tout à l'heure, après l'émission, je fais comment ?
Alors, je suppose que ça doit s'acheter dans les magasins bio. Sinon, vous appelez la ferme de Bonneville en Charente. Vous demandez Christelle de ma part. Elle va vous en envoyer. Et puis, moi, je mettrai ma recette sur mon site alors.
Eh ben, très bien, sur le site de Julie Andrieux.
Voilà.
Bon, juste avant de faire une très courte pause, chère Julie, il dort. Ou, quand vous ne tournez pas, bien sûr, le sublime cabriolet rouge
digne de la série
amicalement vôtre avec lequel vous sillonnez nos provinces.
Ah, il dort où ? Il dort à la production, c'est la propriété de la production et moi je suis coproductrice. Mais écoutez, non, il me suit. Alors je ne prends pas la voiture en partant de Paris, je ne vous le cache pas, parce que sinon je crois qu'elle serait exsangue déjà, qu'elle n'est quand même pas très vaillante. Elle a à peu près mon âge, c'est vous dire. Mais oui, on l'emmène sur une plateforme dans les régions différentes, du nord au sud, et ensuite on tourne avec dans la région.
Et les gens sont ravis de vous voir arriver au volant.
C'est une mascotte.
Cabriolet, ouais. C'est une mascotte.
C'est une mascotte.
Micheline.
Ça, c'est sûr. Ouais, Micheline. Micheline, que j'ai baptisée Micheline. Oui, c'est vrai que les téléspectateurs sont très attachés à cette petite voiture parce que je crois qu'elle raconte des choses et elle évoque des souvenirs à tout le monde, en fait. C'était une voiture qui était très courante dans les années 70 et même 60. Et du coup, voilà, tout le monde a eu, ou un cousin, un oncle qui a eu cette voiture. Et c'est pour ça qu'elle est, elle est vraiment dans notre patrimoine commun.
On retrouve tout de suite Julie Andrieux.
Depuis 15 heures, elle nous parle de son parcours, de son métier, de ses voyages et de cuisine, bien sûr. Julie Andrieux continue à se confier, à se raconter dans un tête-à-tête avec Isabelle Morizet.
Bon, j'espère que vous me pardonnerez cette familiarité, chère Julie Andrieux. Vous êtes virtuose en cuisine comme un chef étoilé, mais vous pourriez parfaitement participer à l'élection de Miss Univers. Oh, voilà, ceci dit, je reçois Julie Andrieux, qui tous les samedis après-midi sur France 3, de 15 à 17 heures, nous propose des balades gourmandes grâce au carnet de Julie. Julie, comme vous avez deux jeunes enfants, vous avez récemment quitté Paris pour vous installer presque à la campagne, à Versailles. Alors, j'ignore si désormais votre cuisine est plus grande que celle de votre appartement parisien, mais comme je sais que votre cuisine est un lieu sacré qui vous sert de bureau et où vous expérimentez donc toutes vos nouvelles recettes, j'aimerais beaucoup que vous nous décriviez cette nouvelle cuisine à la campagne et surtout que vous nous précisiez quels produits, quelles épices, quels condiments et quel matériel on trouve dans la cuisine à vivre de Julie Andrieux.
Alors, on trouve beaucoup de choses. C'est vrai que ma grammaire culinaire est assez vaste et j'aime bien avoir tous les produits à portée de main. Alors, je parle des produits d'épicerie, évidemment, parce que le frais, c'est au quotidien, pour ne pas me laisser prendre de cours. Donc, je ne sais pas, il y a deux jours, je faisais des petits rouleaux avec de la feta et du chou et il fallait que je mette, j'avais en tête une épice libanaise qui est le za'atar. Et là, je me suis rendu compte que j'en avais, je me suis dit, bah voilà. Voilà, c'est comme ça que je veux ma cuisine, c'est qu'il y ait des trucs improbables dedans. Parce que ça libère la créativité, l'improvisation. Et donc, les épices sont essentielles pour moi, oui. Les condiments en général. Et après, bah, voilà, je crois qu'on partage un peu le même marché d'ailleurs.
Oui. J'ai la chance qui d'avoir... est formidable, qui est l'un des plus anciens d'Europe, n'est-ce pas,
absolument, qui a été construit à l'initiative de Louis XIV, qui est somptueux et en plus qui est assez accessible d'un point de vue financier, ce qui compte aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire et à Versailles. Et il y a de très beaux produits. Que soit le marché extérieur ou intérieur. C'est un lieu vraiment formidable et j'ai la chance de l'avoir à portée de main à côté de l'école de mes enfants. Alors là, je ne vous cache pas que j'ai planté ma tente là-bas.
Et il paraît que vous lisez assez rarement les livres de recettes des grands chefs étoilés. Pour quelle raison ?
Ah oui, je les lis comme on pourrait regarder un beau livre, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut approcher la cuisine. Ça évolue beaucoup, hein. Il y a des modes, des tendances dans la photo. Mais en revanche, non, je m'en inspire pas trop, parce que ce sont des recettes assez éloignées de ma cuisine du quotidien.
Oui.
Même si, là aussi, je peux prendre quand même des idées. Puis on oublie qu'en cuisine, on fait ce qu'on appelle une mise en place, c'est-à-dire qu'on prépare tous les éléments de base qui vont être assemblés au moment du coup de feu, et que ça, c'est très difficile à reproduire à l'échelle d'une recette familiale. Sinon, ce serait vraiment très, très compliqué. Donc, je trouve que cette transmission-là, elle était un peu difficile.
Il paraît que vous aimez bien utiliser les techniques de grand-mère, comme par exemple, je l'ai appris récemment, pour cuire un cabillaud, le faire donc sur une casserole d'eau bouillante entre deux assiettes.
Ouais, ça, c'est un grand chef, justement, Didier Léna, qui m'avait donné cette recette. C'est une recette de sa grand-mère, absolument. Faire bouillir de l'eau pour faire cuire, je ne sais pas quoi, des œufs durs, des légumes, ce que vous voulez, des pâtes.
Et en même
et
temps.
Et vous posez une assiette dessus, comme un couvercle, vous mettez votre morceau de poisson, pourquoi pas du cabillaud, vous remettez une assiette, donc vous fermez hein, vraiment le morceau de poisson.
Mais c'est pour et un vous filet laissez de cabillaud cuire. Là, c'est
oui,
pas
ah,
pour
bah
le poisson.
Oui, pas le poisson voilà. Entier, non, ce serait compliqué. Et vous laissez cuire à la vapeur, voilà, et ça va cuire très 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 rapidement.
Pendant combien de temps ?
Oh, bah, pour le filet, il va vous falloir 10 minutes.
Oui. Formidable, j'essaierai. Julie Andrieux, est-ce qu'il vous est arrivé, comme certains grands chefs, d'inventer une recette en ratant celle que vous souhaitiez faire au départ ?
Oh bah oui, bien sûr. Mais moi, j'ai beaucoup raté. Je pense que je suis la personne en cuisine qui a le plus raté au monde. Mais c'est comme ça que j'ai réussi peut-être à toucher un certain public parce que j'ai anticipé peut-être plus facilement les ratages que ceux qui avaient fait des CAP, des formations académiques et autres. Et du coup, oui, pour moi, c'est essentiel. J'ai parcouru plein de chemins à travers mes ratages.
Alors, votre mari, le neurochirurgien Stéphane Delajoux, ose s'installer de temps en temps devant vos fourneaux ou bien c'est chasse gardée, Julie Andrieux ?
Ah non, ça ne l'intéresse pas du tout.
Ah oui, c'est plus simple du tout.
Comme ça. Puis alors, je vais vous dire, il vaut mieux pas d'ailleurs. En revanche, il apprécie ce que je fais, il apprécie de partager avec moi un repas dans un grand restaurant. Voilà, ça oui. Mais au quotidien, non, il peut manger, c'est terrible, parce que je ne vous dirai pas ce qu'il peut manger, c'est horrible. Je ne me reconnais pas, mais c'est les contraires, ça semble.
Un McDonald's tous les jours ne le contrarierait
pas. Non, ce ne sera pas ça, mais ce sera pas une assiette de riz sans rien. Voilà. En fait, il met du carburant. Il met du carburant dans son corps. Et moi, c'est tout le contraire. Moi, je peux passer des heures à mijoter un plat pour déjeuner toute seule.
Oui, oui.
Mais parce que je sais qu'il m'en restera pour le lendemain, pour le surlendemain, que je pourrai en faire autre chose. Voilà. Et c'est un plaisir, c'est une façon de... It's a treat, comme disent les Américains, de se traiter.
Alors, cher Julie Andrieux, j'aimerais beaucoup savoir où en est ce projet que je trouve absolument passionnant, qui évoquerait les religions au travers des différentes cuisines du monde. Parce que là, on touche à la fois à la grande histoire, aux civilisations, à la liturgie, au sacré... Et puis aux interdits, vous en êtes où ?
Ah oui, c'est vrai que c'est un projet qu'on avait enfourché avec beaucoup d'intérêt, de passion. Et on lui a un petit peu, on en a eu un peu peur des réactions, puisque très vite sont arrivés les terribles événements de Charlie Hebdo, et puis après le 23 novembre, et on s'est dit, oula, c'est un sujet sensible.
D'accord.
Est-ce qu'il faut rentrer là-dedans tout de suite ? Je ne sais pas. Et finalement, on l'a traité à travers nos carnets, et ça sera le cas d'ailleurs bientôt pour Pâques.
Ou
pour l'émission spéciale Pâques, on va évoquer beaucoup de religions, en tout cas les trois grandes religions monothéistes, qui cuisinent finalement souvent le même produit, mais de façon différente. Et là, on revient à la symbolique dont on parlait en début d'émission, et ce réservoir de symboles que peut être la cuisine, qui peut raconter l'histoire d'un peuple. C'est notamment le cas, évidemment, en particulier chez les Juifs, parce que c'est un peuple itinérant, et que finalement, l'autel, A-U-T-E-L, bah, c'est la table.
Exactement.
Et c'est pour ça que le repas est si joyeux.
Il y aura avant l'été un nouveau prime, les festins de Julie, comme celui dont on s'est régalé en décembre dernier et qui nous avait emmené au château de Chambord. Qu'est-ce que vous prévoyez ?
Écoutez, a priori, je crois que France 3 a envie que l'on continue et on travaille sur une autre époque. Mais je ne suis pas sûre que j'ai tout à fait le droit de vous en parler.
Oh.
Mais on travaille sur une époque très différente de la Renaissance.
Et ce sera mis en scène.
Ce sera mis en scène par Charles Quesin à nouveau et par moi et par tous les gens qui vont composer ce festin.
Juste avant de nous quitter, chère Julie Andrieux, il est rangé où le livre Julie Tempête, que votre maman, l'actrice Nicole Courcelle, avait écrit quand vous aviez 5 ans?
Ah bah, il est en bonne place dans ma bibliothèque, rassurez-vous. Mais ce que je dois vous dire, c'est qu'effectivement, elle avait écrit quand j'avais 5 ans pour m'expliquer un peu qui elle était. Et puis aussi me parler de mon père, puisqu'elle a voulu que je rencontre mon père à l'âge de 8 ans, ce qui paraît tardif, mais comme il était parti, voilà... L'histoire n'était pas simple et donc ce livre était un peu un témoignage et je ne l'ai pas ouvert avant, je crois que c'était il y a 5 ans. En fait, je n'ai jamais osé. Voilà.
Vous avez attendu si longtemps.
Ouais, ouais, je lui avais dit le contraire. Hein. Mais j'ai pas osé parce que j'avais, je sais pas. Il y a pas d'explication. Je suis pas psychanalyste, mais en revanche, j'ai voulu l'ouvrir avant qu'elle ne disparaisse. Et après, j'ai pu la prendre dans mes bras, mais voilà. Ça faisait partie de je sais pas, c'est un petit... C'est difficile de trouver les mots pour parler de ça. C'est un petit trésor familial, mais il y avait quelque chose d'intime et j'avais pas envie de rentrer dans cette intimité-là quand j'étais petite. L'histoire était peut-être déjà difficile à porter, et du coup, je me suis sentie le courage de l'ouvrir plus tard. Mais c'est bien aussi, parce que je pense que le plus important, c'est qu'il ait existé.
Et puisque tout au long de cette émission, on a parlé de transmission, peut-être le donnerez-vous à lire un jour à Adrien et à Gaïa.
Bien sûr.
Vos enfants. Chère Julie, je vous embrasse. Merci de nous avoir fait voyager cet après-midi. Et puis bien sûr, on sera dès samedi prochain fidèle au poste sur France 3 pour les carnets de Julie. 2 heures d'émission de balade gourmande de 15 à 17 heures. À bientôt.
Merci Isabelle, à bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Rendez-vous, oui, le week-end prochain, 15h-16h sur Europe 1 pour d'autres échanges, d'autres confidences, d'autres réflexions. Isabelle Morizet recevra notamment le physicien Étienne Klein.